le monde au féminin. Le monde au féminin. Auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir. Avec moi dans le studio, Aissata Thiam, consultante internationale en technologie de l'information. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci Nathalie de m'avoir aujourd'hui.
Harcèlement et agression sexuelle dans le milieu du travail, on en parle de plus en plus aux États-Unis et ailleurs. Hollywood, hein, le show business, la politique, les médias, tout le monde en parle en ce moment. Il y a une vague déferlante, aucun secteur ne semble épargné par ce fléau, avec des dénonciations en cascade suite à l'affaire du producteur américain Harvey Weinstein. Alors Aissata, est-ce que ce sujet vous intéresse de près ou pas ?
Absolument. D'abord parce que je suis une femme et je pense que chacun de nous a un niveau beaucoup plus évident, a peut-être une expérience, un vécu, des expériences qui ont un peu touché notre amour propre.
Donc à vous, ça vous est arrivé un petit peu comme à tout le monde?
Je pense de façon beaucoup plus subtile, oui.
Mais c'est souvent ça, le harcèlement sexuel. C'est très subtil, en fait. Et c'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup de femmes, sur le coup, ne dénoncent pas. Et ça revient après, beaucoup plus tard, quand on a compris que c'était bel et bien une situation de harcèlement sexuel.
Oui, mais c'est pas évident parce que les personnes auxquelles ou les institutions auxquelles on va se plaindre n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Ils sont là, la personne qui est accusée le plus souvent est quelqu'un qui amène le succès, qui amène l'argent, qui amène l'audience.
C'est quelqu'un de très important.
Voilà, quelqu'un d'important.
Alors, c'est pas facile de dénoncer une tête d'affiche.
Voilà, c'est ça. Donc, des fois, on se retrouve dans le dilemme de ne pas savoir à qui s'adresser pour être écouté.
Et aussi, très souvent, la femme, lorsque ça arrive dans le cadre du travail, la première crainte, c'est de perdre son travail, finalement.
Tout à fait. C'est complètement culturel. C'est le fait déjà qu'il y a une profonde inégalité entre les hommes et les femmes, à compétences égales, à parcours égal et tout ça. Les femmes ont un chèque qui est beaucoup moins important que les hommes à compétences égales. Donc, ils sont traités de façon différente dans le milieu du travail.
C'est dans la presse.
Matt Lauer, journaliste vedette de NBC, licencié pour comportement sexuel inapproprié, a présenté ses excuses, se disant gêné et honteux, alors que de nombreuses femmes l'accusent de harcèlement sexuel. Il n'y a pas de mots pour exprimer ma tristesse et mon regret pour la douleur que j'ai causée, a-t-il déclaré dans un communiqué. Je suis sincèrement désolé, je réalise l'ampleur des dégâts et de la déception que je laisse derrière moi à la maison et à NBC. C'est la plainte d'une salariée de la chaîne pour comportement sexuel inapproprié qui a incité les dirigeants à le licencier après enquête interne, bien sûr. Certaines choses qui sont dites à propos de moi ne sont pas vraies ou inexactes, mais il y a assez de vérité dans ces histoires pour que je me sente gênée et honteux, a-t-il dit. Autre nouvelle, c'est dans la presse, un tribunal égyptien a condamné un avocat à 3 ans de prison pour avoir affirmé que violer les femmes portant des jeans troués était un devoir national. Wow. Les propos de Nabi Al-Wash lors d'une émission de télévision en octobre 2017 avaient provoqué l'indignation et une vague de plaintes auprès du procureur qui avait décidé de le poursuivre en justice. Le parquet l'a inculpé notamment pour incitation publique à enfreindre la loi et perturbation de l'ordre public. Selon l'ONU, plus de 99% des femmes ont été victimes de harcèlement en Égypte, où elles sont quotidiennement confrontées aux remarques obscènes et à touchements. On se souvient, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le soulèvement en Égypte, cette journaliste européenne qui avait carrément été violentée, déshabillée sur la place publique.
Absolument.
Aïssata Thiam, quand on revient sur cette nouvelle, ce tribunal égyptien qui condamne, c'est un avocat en plus, quelqu'un d'instruit, quelqu'un de très instruit, forcément, on n'est pas étonné finalement qu'il y ait des problèmes de harcèlement et de violence sexuelle, parce que ce type de propos peut passer ici et là, dans certains pays comme ça, comme une lettre à la poste.
Tout à fait. C'est quelque chose qui a bénéficié d'une impunité séculaire. Et je pense que les femmes n'ont pas été mieux atteintes par rapport à leur traitement, mais n'ont pas eu autant d'écho. Mmh. Le fait que ça ait pris une certaine ampleur ces temps-ci est beaucoup plus lié à l'impact des réseaux sociaux. Mmh. Je pense que quelque chose qui commence très petit dans une entreprise, en fait, peut avoir un écho global et mondial parce que tout est relié par les réseaux sociaux.
C'est ce qui est intéressant de plus en plus. Hein, quand quelque chose ne nous plaît pas, ne nous convient pas aujourd'hui, surtout avec la jeunesse et tous ces gens qui sont engagés dans les réseaux sociaux, on fait des campagnes. Maintenant, la population a le pouvoir de faire des campagnes contre ceci, pour cela, vraiment à travers les médias sociaux. C'est beaucoup plus simple qu'autrefois quand ça n'existait pas.
Absolument.
Il fallait se réunir quelque part, il fallait entreprendre beaucoup de choses, alors que là, il suffit qu'une personne lance un mouvement et tout le monde part derrière. Notamment, on peut parler du mouvement MeToo. Ouais. Vous êtes intéressée à ce mouvement ?
J'ai lu beaucoup de comptes rendus qui sont assez intéressants. Et je suis du Mali, en fait. Et je sais qu'il y a une blogueuse qui a mis en ligne des rendus de maliennes, en fait. Et c'est un contexte beaucoup plus différent, mais universel. Les attaques sont des mêmes types. Les hommes, c'est une question de pouvoir et d'impunité, le plus souvent.
Voilà. Donc, on va peut-être revenir justement un petit peu plus tard sur cette question. La notion de harcèlement sexuel en Afrique, qui peut être perçue d'une manière un petit peu différente finalement, c'est ça hein?
Absolument, absolument. Parce que le plus souvent, ça se passe dans le cadre de l'entreprise, mais ça se passe également à la maison, où c'est la grande famille. Ce n'est pas du tout la famille nucléaire. On est dans des concessions où il y a différentes familles qui cohabitent.
Parole de femme.
Dans le monde en général, le métier de caricaturiste est plus exercé par les hommes que par les femmes. La Guinée ne compte qu'une dessinatrice caricaturiste professionnelle, mais plusieurs filles se lancent dans cette activité artistique et journalistique, nous dit notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara, qui a notamment tendu son micro à la pionnière Aïssatou Baldé.
L'objectif, c'est d'être l'une des grandes BDistes du monde et aller, pourquoi pas, ne pas travailler au sein de l'équipe Walt Disney et me lancer aussi dans l'animation.
Et pourtant, Aïssatou n'a pas étudié les beaux-arts. La passion lui a presque tout facilité. Dessinatrice, caricaturiste, illustratrice d'articles de presse, elle cherche à faire éditer sa première bande dessinée.
Voici ma bande dessinée, un scénario complet qui n'est pas d'abord édité. Qu'on appelle Belida, le fleuve interdit. C'est à peu près une histoire d'une orpheline qui vivait avec sa marâtre.
À Guinée, peu de filles s'intéressent au dessin et à la caricature. Leur point de vue diffère d'une à l'autre.
Je m'y intéresse, mais pas dans le cadre différent moi-même. Mais seulement parce que je me dis que je n'ai pas cette inspiration. Au lieu de perdre son temps à dessiner, c'est mieux plus qu'à pas lire un journal au moins.
Elles ne s'affirment pas. Elles ne veulent pas sortir de leur timidité. C'est pas qu'elles ne peuvent pas le faire. Elles peuvent bien. Mais elles ne s'intéressent pas. Elles disent que oui, ce terrain n'est pas fait pour moi.
Célèbre dessinateur caricaturiste guinéen, Youssouf Ben Barry, surnommé Oscar, est le président de Bouledank, une association qui organise chaque année un festival du même nom.
Au début, on était 5 membres, aucune fille. On a fait le premier concours de dessin et on a détecté la fille Baldé qui a gagné le premier prix en dessin. Et depuis lors, les filles se sont intéressées. Et chaque festival, il y a une vingtaine de filles qui se présentent pour les concours.
36 dessinateurs caricaturistes évoluent au sein de cette association, dont 8 filles. 8 filles, peu par rapport au potentiel féminin, mais important comparé à 0 filles il y a seulement quelques années. Conakry, Zakaria Camara, pour VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde au féminin, donc avec Aïssata Thiam comme invitée. Donc, si on revient, Aïssata, sur ce reportage-là, sur la Guinée, cette dame caricaturiste, entre autres, on constate, ben, comme dans beaucoup de domaines, finalement, que les femmes sont minoritaires dans la plupart des jobs, finalement, sauf dans certains, comme dans les hôpitaux, et finalement, sont peut-être plus facilement exposées au harcèlement sexuel, parce qu'il y a, je ne sais plus quel politicien qui ont dit plusieurs fois, et voire des observateurs également, que le harcèlement sexuel serait beaucoup moins prononcé s'il y avait plus de femmes au travail, par exemple. Est-ce que vous pensez de cette manière également ?
Bon, je pense que c'est peut-être une possibilité, mais je ne crois pas qu'il faille prendre la solidarité féminine comme de l'argent comptant non plus. Il y a beaucoup de rivalités au sein du travail, il y a une certaine promiscuité qui est là, il y a des intérêts qui sont divergents. Et par rapport à ça, je ne pense pas que c'est le genre qui va être un facteur unificateur.
Mais ceci dit, vous ne pensez pas que plus de femmes permettraient moins de harcèlement sexuel au travail ?
Non, je ne pense pas.
D'accord. Mmh. On revient sur l'Afrique. Vous avez parlé tout à l'heure dans le cadre de la famille, le harcèlement sexuel. Donc déjà, cette notion de harcèlement sexuel, est-ce que selon vous, elle est perçue de la même manière en Afrique ?
Bon, en Afrique, c'est presque comme quelque chose auquel les femmes se résignent. Parce que elles ont l'impression qu'il y a tellement, c'est un parcours d'obstacles qui est leur vie, en fait. Et d'avoir à supporter les avances des hommes et ne pas avoir de forum où s'en plaindre. Parce que tu retournes chez toi, tu en parles à tes parents. S'il y a des intérêts économiques qui sont liés à cela, et tu vas pas peut-être avoir l'audience que tu aurais souhaité ou le support que tu aurais souhaité. Tu en parles aux autorités, ben de toute façon
on se moque de toi.
Voilà, exact. Ou on ne te croit pas. Il y a aussi des fois où c'est des va-et-vient. Il y a un moment où la femme concède, où elle pense que c'est dans son intérêt pour avancer, qu'elle puisse peut-être se laisser faire des avances. Et à un moment où elle prend conscience que ce n'est pas ce qu'il lui faut, où elle a un changement de cœur, comme on dit, et puis elle veut faire volte-face par rapport à ça.
Sachant que ça commence dès l'école, hein, on le sait très bien.
Absolument, absolument. Donc ce n'est vraiment pas noir et blanc. Je pense qu'il faut se méfier des généralisations. Et j'ai lu un article qui disait que ce n'était pas vraiment de dire la loi aux gens qui sont coupables d'agression sexuelle, c'est de leur donner des cas concrets de harcèlement sexuel et de leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.
Les éduquer,
mais de façon beaucoup plus concrète, plutôt que de mettre la loi devant eux. Je pense que ces hommes qui sont coupables, ils savent pertinemment où la loi commence et où la loi s'arrête.
Là, on parle un petit peu plus peut-être des agressions sexuelles, parce que bon, le harcèlement sexuel en lui-même, est-ce que l'on peut imaginer des lois vraiment dans tous les pays d'Afrique anti-harcèlement sexuel ?
Bon, en Afrique, je ne sais pas, mais en Occident, tout à fait, c'est zéro tolérance.
Tolérance, surtout aux États-Unis, hein,
aux États-Unis, en Europe, ça veut dire que ça soit une agression sexuelle ou un harcèlement sexuel, une fois que la preuve a été établie que ça a eu lieu, je pense qu'il y a des endroits de la loi qui doivent sévir.
Si jeunesse pouvait.
Quelle gouvernance pour une participation optimale de la jeunesse au renouveau politique, économique et social du Burkina Faso ? C'est le thème des états généraux de la jeunesse dans ce pays ouest-africain où les jeunes sont largement majoritaires, un petit peu comme partout, comme le rappelle notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ouanogo.
Les jeunes de moins de 25 ans représentent environ 66% de la population burkinabé. Smaïla Ouédraogo, le ministre en charge de la jeunesse.
Aujourd'hui, c'est les gouvernants qui font attention donc aux gouvernés. Par rapport à ça également, nous notons des déviances. Les civils montent, beaucoup de problèmes restent à l'état au niveau de la jeunesse. Au niveau des jeunes eux-mêmes, ils ont des solutions à proposer. Au niveau des non-jeunes également, dans notre société qui travaille en faveur de la jeunesse, ils ont également des idées. Il faut savoir mettre toutes ces idées-là en commun pour pouvoir avancer.
Pour Issiaka Ouédraogo, les problèmes de la jeunesse burkinabé ont un nom, l'éducation mal adaptée.
C'est le même discours, les mêmes promesses, les mêmes activités qu'on organise. Mais à la sortie de là, on sent que tout ce qui a été dit reste dans le tiroir. Nous, on a toujours décrié, en tant que responsable des syndicats, que notre éducation va mal. La base n'est pas bonne. Je vais vous donner un exemple. Rentrez à l'université, dites à un étudiant de vous faire un projet personnel. Il aura du mal à le faire. Et demandez à un étudiant de vous écrire, ne serait-ce qu'un poème, tout de suite. Il va vous l'écrire, un beau poème. Parce que notre enseignement, ce n'est pas un enseignement qui peut vraiment nous accompagner, qui nous donner une directive d'une sortie de crise économique.
C'est dur pour les jeunes hommes. Et ça l'est davantage pour les jeunes filles, assure Maïmouna Ouidraou, responsable d'un mouvement associatif de jeunes filles.
On quitte les parents pour venir s'instruire en ville. Il y a un problème de logement. Parce que moi, je viens d'une commune rurale. En milieu rural, c'est pas comme en ville. Donc les filles ont beaucoup de difficultés. De nos jours, personne ne veut prendre l'enfant de quelqu'un chez lui. Donc les parents sont obligés de louer des maisonnettes pour mettre ces filles-là. Et malheureusement, on voit qu'après, il y a des grossesses non désirées parce qu'elles ne sont pas encadrées. Donc je pense que l'État pourra vraiment prendre en compte la cause de la fille dans l'éducation.
C'était un extrait d'un reportage de Zoumana Wanogo que vous pouvez suivre sur voafrique.com.
Et oui, et c'est la jeunesse pouvait.
Écoutez Le Monde au féminin avec Aïssa Tatiam, consultante internationale en technologie de l'information. Aïssata, on pourrait venir à présent sur le cas Trump, le cas Donald Trump. Hein. C'est un cas très particulier et on a parlé beaucoup du business. Il y a la politique aussi, il y a des scandales en politique. En ce moment, on est en train même à l'Assemblée nationale de former les parlementaires, n'est-ce pas? Ce sont des stages obligatoires contre le harcèlement sexuel. Le cas Trump quand même, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qu'il aurait dit, etc. Comment vous le percevez finalement? On peut dire ce manque d'équilibre entre toutes ces dénonciations et finalement le cas Trump à côté qui est le président des États-Unis et qu'on a du mal à cerner.
Moi, je crois que c'est plutôt une disparité par rapport au domaine. Quand il s'agit de la communication, quand il s'agit de Hollywood, par exemple, les gens ont tout de suite payé. On voit à peu près avec Fox News ce qui s'est passé au plus haut niveau avec NBC, avec Harvey Weinstein. Mais quand il s'agit de la politique, ce n'est pas forcément automatique. Donald Trump, effectivement, il sait pas d'aujourd'hui que datent les plaintes contre lui de nature sexuelle. Mais cela a été même mis en évidence avant qu'on ne l'élise président de la République président des États-Unis d'Amérique. Donc, je pense que les gens qui votent, ils font un calcul par rapport à est-ce que c'est aussi grave que ça va un peu assombrir ou endommager ou...
Est-ce que là, finalement, on n'est pas un petit peu plus tolérant au niveau de la politique, hein?
Je pense que si les gens n'avaient pas des intérêts personnels en jeu, ils auraient été peut-être beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus justes. Les hommes politiques bénéficient de la politique politicienne.
Entre parenthèses.
Women First, Prosperity for All, c'était le thème du sommet de l'entrepreneuriat global à Hyderabad en Inde, au cours duquel l'administrateur de l'Agence des États-Unis pour le développement international, Mark Green, a annoncé de nouveaux efforts pour autonomiser les femmes entrepreneurs. L'USAID compte notamment améliorer l'accès à la technologie, à la nutrition et aux services de santé en investissant dans l'entrepreneuriat féminin en Afrique. J'ai joint à Johannesburg Brian Neubert, porte-parole du département d'État américain pour l'Afrique, qui parle d'abord du concours Feed the Future.
Ce que nous allons organiser, c'est un concours qui leur permettra d'accéder à des investissements. Ça, c'est dans l'initiative de Feed the Future. Et l'autre élément sera de mettre ces femmes entrepreneurs en Afrique en contact avec des mentors de grandes entreprises américaines du secteur alimentaire. L'autre initiative qui est liée à cette question des entreprises d'alimentation et des femmes entrepreneurs s'appelle en anglais Women Connect Challenge. Ce programme va aider les femmes entrepreneurs à avoir accès à l'Internet et à la technologie. C'est un élément essentiel pour le succès de ces entreprises.
Quant au sommet sur la question à Hyderabad, hein, il y avait notamment 150 pays qui étaient représentés à ce sommet en Inde. Qu'est-ce qui a été dit en particulier, notamment sur ce projet Women First?
Le thème du sommet, les femmes d'abord, la prospérité pour tout, ça veut dire les opportunités pour les femmes, soit sur les questions de la technologie, la nutrition, ou bien au service de santé, c'est à la base de la croissance économique. Donc, ce sommet devrait mettre l'accent et prioriser les investissements dans les entreprises qui sont gérées par les femmes. Ces rencontres à Hyderabad, ça souligne cette dynamique, ça donne un peu plus d'énergie pour les entrepreneurs, mais aussi ça donne vraiment des opportunités de networking pour les mettre en contact avec d'autres entrepreneurs pour réussir leurs entreprises. Ce sont les femmes, ce sont les jeunes femmes, les enfants qui souffrent, et donc c'est là où il faut mettre nos investissements pour améliorer cette situation et éventuellement vers du progrès dans le développement économique.
Aïssata, est-ce que l'on peut dire selon vous qu'il y aurait, est-ce qu'on peut sentir ça à travers les médias sociaux, à travers la presse, à travers les médias, après les actions de politiques, de beaucoup de politiques, notamment en Europe, en France, etc. Est-ce que l'on peut dire qu'il y aurait de nouveaux mouvements féministes début 21e?
Bon, je pense que les mouvements féministes ont existé et
oui,
ont essayé d'avoir une certaine position, un certain levier par rapport aux problèmes universels auxquels sont confrontées les femmes. Mais maintenant, l'amplitude est beaucoup plus prononcée, comme je vous dis, parce que on vit dans un village global. À cause de la télé, à cause de Facebook, de LinkedIn, de Twitter, les gens ont vraiment l'impression et de tous ces moyens qui ne sont pas aussi chers de pouvoir communiquer.
Vous parliez de la solidarité tout à l'heure. Vous disiez que les femmes ne sont pas si solidaires que ça. C'est ce que vous vouliez laisser entendre.
Oui.
Ce mouvement MeToo, tous ces témoignages qu'on peut entendre, est-ce que c'est pas un début de solidarité entre les femmes qui appellent à se faire respecter?
Moi, je vois plutôt l'impact que ça a eu par rapport à ceux qui se sont rendus coupables d'agressions sexuelles. Parce que ça les a quand même amenés à perdre leur boulot ou à payer d'une façon ou d'une autre. Ce sont des histoires qui ne datent pas d'aujourd'hui. C'est des histoires qui datent d'une dizaine d'années, d'une quinzaine d'années. Pourquoi aujourd'hui particulièrement...
Mieux vaut tard que jamais, comme on dit.
Mieux vaut tard que jamais. Et si aujourd'hui ça a eu l'effet que la personne paye d'un comportement qui n'est pas correct, je pense que c'est positif.
Vous ne pensez pas qu'il est plus facile de dénoncer quelque chose après que plusieurs personnalités
l'aient
fait? Ça peut aider certaines femmes.
Non, absolument. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Parce que les gens se sont identifiés à d'autres femmes qui ont raconté leur histoire. Parce que il faut voir aussi le stigma, il faut voir la gêne qu'on a. Moi, quand j'ai vu le hashtag MeToo, ben, c'est vrai que j'avais des choses à dire, mais je n'y suis pas allée. Et j'aurais dû...
Aïssata Thiam, un grand merci vraiment pour avoir participé à cette émission Le Monde au Féminin. Un grand merci à Josèle Morissin et à Wagner Robert à la technique. Bien sûr, un immense merci à nos auditrices, à nos auditeurs. À très bientôt. Au revoir.
Arrête.